C'est l'état d'urgence.
Nous disons qu'il y a une minorité qui s'impose par la terreur et la violence. Nous devons agir sur cette minorité dans le but de l'isoler et de la détruire.
Il y a quand même beaucoup d'interdictions de manifestations, hein.
L'état d'urgence signifie l'abandon de l'état de droit. Nous combattons la démocratie avec les armes de la République.
La méthode est l'interrogatoire. Et l'interrogatoire devient une méthode lorsqu'il est conduit de façon à toujours obtenir une réponse. Nous devons avoir la ville à notre disposition, la passer au crible et interroger tous ses habitants.
C'est l'état d'urgence.
C'est l'état d'urgence et c'est le front du lundi. Le front du lundi qui va fêter à sa manière le 94e jour de ce sale état, le sale état d'urgence. Ça fait presque old school. On a l'impression que plus personne ne s'en soucie. Le printemps est là, ou presque. Et au front du lundi, aujourd'hui, on a un menu bien rempli. Beaucoup d'invités. Déjà deux invités téléphoniques et un invité, je vais finir par eux, on a un invité en chair et en os. On recevra à 13h, on aura le plaisir d'accueillir Mustapha Mohamed, un urbaniste palestinien et francophone de l'université de Birzeit, rattaché à l'université de Birzeit, qui viendra nous parler planification urbaine de la colonisation de Jérusalem Est. On aurait presque pu lui proposer de venir nous faire un petit coucou puisqu'il est déjà dans les studios, mais enfin on a raté le coche. Mais avant ça, nous aurons à 12h45 le tout aussi grand plaisir d'accueillir au téléphone Mathieu Léonard de CQFD, le petit canard marseillais qui sort pour le mois de février 2016 le numéro habituel du mensuel, mais avec un dossier sur Turquie, la sale guerre d'Erdogan, Erdogan du nom du Premier ministre. Il fait la couverture avec derrière lui deux ombres de loups, évidemment référence peut-être à un certain parti politique qui vit dans l'ombre d'Erdogan. Donc des articles sur les mots qui tuent d'Erdogan, un dossier qui revient aussi sur la chaîne des violences d'État depuis 1915, un entretien avec Étienne Copeau, et on reviendra aussi sur l'escalade policière et peut-être les prémices d'une guerre civile en Turquie. Bref, tout ça c'est à 12h45 avec Mathieu Léonard, et on va commencer cette émission en accueillant un représentant d'un collectif d'enseignants du premier degré. Là on est à Toulouse, il y a une grève depuis quelques semaines, et bien voilà, tout ce que vous avez voulu savoir sur cette grève un petit peu qui a pété là dans quelques écoles. Il y a une grève qui est à nouveau appelée demain et des rendez-vous qui sont appelés mercredi. On s'était dit que c'était l'occasion de creuser un peu le sujet. Voilà le menu du front du lundi. On vous laisse un petit peu de musique pour souffler.
Alors que j'étais à l'armée, on était en manœuvre dans le Louisiane, une nuit au mois de mai. Le capitaine nous montre un fleuve et c'est comme ça que tout a commencé. On avait la flotte jusqu'aux genoux et le vieux con dit d'avancer. Sergent dit où mon capitaine, êtes-vous sûr que c'est le chemin? Sergent, j'ai traversé souvent et je connais bien le terrain. Allons soldats, un peu de courage, on n'est pas là pour s'amuser. Il y en avait jusqu'à la ceinture et le vieux con dit avancer. Sergent dit on est trop chargé, on ne pourra pas nager. Sergent, ne sois pas si nerveux, il faut un peu de volonté. Suivez-moi, je marcherai devant, je n'aime pas les dégonflés. En avait la flotte jusqu'au cou et le vieux con dit d'avancer. Dans la nuit soudain, un cri jaillit suivi d'un sinistre glou-glou. Et la casquette du capitaine flottait à côté de nous. le sergent cria « Retournez-vous, c'est moi qui commande. » À présent, on s'en est sorti. Juste à temps, le capitaine est mort battant. Le lendemain, on a trouvé son corps enfoncé dans les sables mouvants. Il s'était trompé de 500 mètres sur le chemin qui mène au camp. Un affluent se jetait dans le fleuve où il croyait la terre tout près. On a eu de la chance de s'en tirer quand ce vieux con allait avancer. Morale de cette triste histoire, je vous la laisse deviner. Mais vous avez peut-être mieux à faire, vous ne sentez pas concerné. Mais chaque fois que j'ouvre mon journal, je pense à cette traversée. On avait de la flotte jusqu'aux genoux et le vieux con dit avancer. Il y en avait jusqu'à la ceinture et le vieux con dit avancer. On avait de la flotte jusqu'au cou et le vieux con dit avancer. Il y en avait jusqu'à...
Et voilà, vous êtes de retour à l'antenne de Canal Sud, c'est le front du lundi, et on reçoit par téléphone Nicolas, un enseignant en lutte, salut.
Oui, bonjour.
Ah voilà, une belle liaison, on s'entend bien. Bon, et ben on s'est croisé, tu distribuais des tracts ce week-end, titré enseignant en colère, et comme il y a quelques rendez-vous pour les jours qui viennent, on s'est dit que c'était peut-être intéressant que tu nous expliques de quoi il s'agit. Peut-être on commence par les rendez-vous, donc il y a une grève demain, c'est ça ?
Tout à fait, on appelle tous les enseignants du premier degré à se mettre en grève demain sur la revendication un enseignant absent, un enseignant remplaçant, sachant qu'il manque pas que ça dans l'éducation nationale pour pouvoir exercer son travail normalement.
Oui, donc on y reviendra, ça c'est un appel pour les enseignants, les enseignantes. Il y a aussi un appel peut-être plus public après-demain ?
Tout à fait, donc mercredi 17 février à 14h devant le rectorat, il y a une réunion au rectorat qui va décider de l'ouverture ou de la fermeture des postes pour l'année prochaine. Donc c'est là où on va grosso modo décider de pour l'année prochaine de pouvoir s'organiser en termes de classe et d'effectifs. Donc c'est pour ça qu'on appelle tout le monde à venir mercredi à 14h au rectorat pour mettre en place un rapport de force. On invite aussi les parents d'élèves et toutes les personnes qui sont concernées par le manque d'enseignants dans l'éducation nationale.
Ok, donc ça c'était pour les rendez-vous et peut-être on va, du coup tu vas nous expliquer un petit peu de quoi s'agit-il. La première chose, tu disais quand on préparait cette interview, c'est un mouvement en construction. C'est un mouvement assez récent et un mouvement assez spontané. Est-ce que tu peux peut-être commencer par expliquer comment est-ce que vous en êtes arrivé à faire donc une première grève, si j'ai bien compris, le 5 février ? Et voilà, qu'est-ce qui est à l'origine de ça ?
Il y a trois semaines, il y a un peu moins de trois semaines, on s'est retrouvé encore à devoir répartir 8 élèves par classe dans une école. Et donc nous, moi je suis parti d'une équipe de remplaçants. Et donc sur proposition de l'équipe éducative de l'école, on a refusé de monter en classe. Parce qu'on a estimé que 8 élèves par classe, on ne pouvait pas assurer ni la sécurité physique des élèves, ni leur sécurité affective, la continuité des apprentissages, vous imaginez bien, et puis il y a aussi une souffrance des enseignants par rapport à cette problématique.
Alors quand tu dis que vous avez dû répartir 8 élèves, c'est-à-dire un enseignant absent, alors on précise quand même, un enseignant absent c'est aussi parce qu'il y a des absences qui sont prévues de longue date, il y a des absences pour formation, mais il n'y a plus assez de remplaçants, que ce soit pour des arrêts maladie ou pour quoi que ce soit, et donc quand tu dis répartir des élèves, c'est qu'on a des élèves qui sont dans un certain niveau, je ne sais pas, en CM1 par exemple, et l'enseignante est absent, il faut les répartir, donc on les met dans d'autres classes avec d'autres niveaux, c'est bien ça ?
Exactement, c'est exactement ça. Là, on avait deux classes à répartir sur les 5 ou 6 classes restantes, donc on avait 60 élèves à répartir sur 5 classes, donc non, c'est pas tout à fait ça, pardon, on avait 5 C'est une cinquantaine d'élèves répartis sur 7 classes, donc ça fait à peu près 8 élèves par classe. Et donc ils sont au fond de la classe, et en fait, grosso modo, pendant toute la matinée, ils font des coloriages magiques, donc eux, ils n'apprennent pas grand-chose, et en plus, ça perturbe l'apprentissage des élèves de la classe. Et le problème, c'est que c'est quelque chose qui nous arrive régulièrement. Nous, dans notre équipe, on est confronté à ce problème-là plusieurs fois par semaine. Oui. On est déjà monté à 10 élèves en plus au fond de la classe. Sachant qu'on travaille dans les réseaux d'éducation prioritaire, donc qui sont les quartiers populaires, donc on a un public qui est particulier. Et à rajouter à ça le surnombre en classe, ça devient ingérable.
Effectivement. Alors, une question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est un truc ponctuel là, sur l'année comment ça se fait qu'il y ait comme ça des classes du coup, qui arrivent avec des effectifs déjà maximum et avec des élèves en plus qui font surcharger les classes? Mais depuis quelques années, il y a une augmentation du nombre d'élèves. Tu disais plutôt ça. Alors, c'est quelque chose dont la mairie se gargarise. Il y a de plus en plus d'habitants à Toulouse. C'est super. Mais c'est qu'en fait, c'est une des conséquences de ça, le fait qu'il y ait de plus en plus d'élèves en cours.
Oui, exactement, il y a de plus en plus d'élèves en cours, sauf que le recrutement ne suit pas. Donc nous, on se retrouve avec de plus en plus d'élèves, et du coup, les enseignants remplaçants, il y en a de moins en moins. Et donc, plus ça va, et d'année en année, c'est de pire en pire. Et cette année, au mois d'octobre, déjà, les secrétariats nous disaient qu'ils n'avaient plus de remplaçants à nous envoyer. Donc maintenant, au mois de janvier-février, avec les épidémies de grippe, de gastro, et plus le fait que ça fait des mois qu'on manque de remplaçants, donc on travaille dans des conditions très dures qui poussent certains collègues à craquer et du coup à se mettre en arrêt aussi, ce qui fait que ça n'arrange pas la situation.
On a l'impression que c'est un cercle vicieux. Alors il y a un indicateur, hein, parce que là tu parles de ressenti, moi j'ai l'impression que c'est ça le plus important, mais enfin quand même pour celles et ceux qui auraient besoin de chiffres, il y a ce qu'on appelle le ratio prof-élève, et tu me racontais tout à l'heure que c'est un truc qui est en augmentation constante et qui permet justement de bien mesurer cette augmentation, ce manque de moyens.
D'année en année, on a de plus en plus d'élèves par enseignant. Donc on travaille dans des conditions qui sont de plus en plus dures, en plus avec un public qui évolue actuellement, qui est de plus en plus délicat à gérer. Donc si on combine ces deux-là, ça rend des situations d'apprentissage impossibles.
Ouais. Alors peut-être sur la phase là, le petit truc qui s'est passé il y a 3 semaines. Donc comment est-ce que tout ça a pété? On disait que c'est un mouvement en construction. C'est un peu un mouvement qui est téléguidé par des organisations syndicales, parce que sinon on pourrait se demander pourquoi faire ça juste avant les vacances. C'est peut-être intéressant de raconter comment vous en êtes arrivé là, pour bien comprendre pourquoi est-ce que c'est un mouvement un petit peu atypique. C'était donc il y a 3 semaines. Tu disais.
Donc le jour.
Voilà, un refus en disant il y a un droit de retrait presque, certains collègues, peut-être toi-même aussi, refusiez d'accueillir des élèves en plus.
Tout à fait, c'est-à-dire qu'on a refusé la 8 élèves par classe, on a estimé qu'on ne pouvait pas assurer la sécurité des élèves et l'apprentissage, donc on a refusé de monter en classe, on a appelé notre inspecteur pour l'en informer. Il nous a répondu que notre démarche était inacceptable parce qu'on prenait les élèves en otage. Ce sur quoi on a répondu que non, si on faisait ça, c'était justement pour l'intérêt des élèves. Et il nous a dit de ne pas nous inquiéter parce qu'il allait essayer de résoudre le problème pour septembre. Donc, étant au mois de janvier, nous, ça nous a mis dans une colère un peu noire. Et donc, là, c'est les collègues, on a décidé ensemble de partir, d'appeler une journée de grève parce que cette situation n'est plus possible, n'est plus viable. Et nous, ça fait déjà des mois qu'on dénonce ça à l'administration. On a déjà parlé plusieurs fois à l'inspecteur, on a fait des courriers, on a fait des choses. Et à chaque fois, ils nous disent oui, et puis ils changent rien. Et du coup, là, les collègues ont craqué.
Effectivement, ouais, un truc qui était appelé à être solutionné en septembre, ça fait un petit peu long, d'autant plus que tu me le disais, habituellement, on vous annonce qu'il n'y a plus de remplaçants disponibles, tu me disais vers décembre, janvier d'habitude.
Voilà, c'est ça, et cette année c'était au mois d'octobre qu'on nous a dit qu'il y avait plus.
Et cette année c'était au mois d'octobre. Donc là en fait en octobre on vous dit qu'il n'y a plus de remplaçants disponibles, vous faites quand même le boulot à peu près en vous commandant de ce qu'on vous demande de faire jusqu'en janvier, et quand en janvier vraiment c'est trop, le mec vient et vous dit on verra ça en septembre.
C'est ça, exactement.
C'est pas un résumé caricatural, ça va. Et donc, suite à ça, ce qui est un peu intéressant, c'est que ça a été suivi. C'est pas resté. Ça a peut-être donné des idées à d'autres personnes. Il y a peut-être des collègues à toi qui se sont retrouvés dans ces difficultés de boulot. Et donc, il y a eu des AG avec un petit peu de monde. Peut-être tu peux raconter ces quelques réunions.
Tout à fait. Donc, le 5 février, donc on appelait la grève le 5 février. Donc, le 5 février, il y avait 9 écoles de fermées, plus des grévistes dans plusieurs autres écoles, donc c'est vraiment parti en une semaine. Alors on est soutenu par des syndicats, mais c'est pas eux qui appellent, donc c'est vraiment nous qui avons été dans les écoles le midi pour discuter avec les collègues, pour leur expliquer la situation, et l'avis est partagé par l'ensemble des collègues. D'ailleurs, j'invite tous les auditeurs à demander s'ils ont des amis enseignants ou parents d'élèves, ils peuvent leur demander, c'est à peu près le cas à peu près partout sur Toulouse, et même plus globalement sur la France, même si à Toulouse c'est un point critique. Donc le matin on était 60 en assemblée générale de grévistes, et le midi on était 120 avec des parents d'élèves. Et à l'assemblée générale du midi, on a revoté la grève pour demain. Et là, on est déjà à plus de 12 ou 13 écoles fermées. On a des grévistes dans beaucoup, au moins autant d'écoles. Et donc, c'est un mouvement qui prend vraiment d'ampleur et qui est en train de fonctionner.
Bon, mais écoute, très bien, merci. Peut-être on peut rappeler donc les rancards. Vous, vous appelez à la grève demain matin, dès demain
Exactement,
matin.
Exactement, on appelle tous les professeurs des écoles, donc tous les professeurs du premier degré à faire grève demain matin et à venir à l'Assemblée Générale à 9h à l'école maternelle d'Aurillac, qui est à Bagatelle.
Ouais,
et mercredi à 14h devant le rectorat pour mettre en place un rapport de force pour obtenir des postes.
Voilà, donc si on a parmi nos auditeurs auditrices qui veulent retrouver les tracts, reprendre un peu les chiffres, peut-être on peut citer des endroits où on a ça à disposition. Il y a sur le site de la CGT Éducation 31, je crois.
Oui, sur le site de la CGT, ça y est. Sur le site de Sud aussi, ça y est. Vous pouvez aussi aller sur le site de la FSU, ça va y être. Il y a Force Ouvrière aussi qui soutient le mouvement. Et après, vous pouvez aussi, il y a un blog qui vient d'être créé, mais qui n'est pas encore en ligne. Donc, désolé, il sera en lien sur les sites syndicaux d'ici peu. Un blog des enseignants en lutte.
Bon, n'hésite pas à nous donner ça. Nous, on le mettra aussi en lien sur le site de l'émission. Merci beaucoup. Je te remercie. Bon courage pour demain. Peut-être on se donnera des nouvelles dans les semaines qui suivent. Voilà, bon courage. Et bonne grève. Salut. Alors, peut-être on rappelle hein, pour nos auditeurs auditrices, hein, donc leur revendication c'est 1000 postes. On rappelle que ce cher état d'urgence qui nous tient à cœur, on lui souhaite son anniversaire chaque semaine, hein, 94e jour. Le coût estimé de l'état d'urgence c'est 1 milliard d'euros, on en est là. Et exceptionnellement, étant donné les circonstances, le gouvernement avait trouvé les moyens pour créer au pied levé 8500 postes de sécurité en 2 ans, 5000 dans la police et la gendarmerie, 2500 dans la justice, 1000 dans les douanes, voilà tout ça, ça sort d'un chapeau. Mais il n'y a pas de moyens et pendant ce temps-là, les élèves sont à 35 élèves dans les classes de CP par classe. Merci, on écoute un petit peu de musique et juste après, on retrouve Mathieu Léonard de CQFD.
Azadım, az bağızım, az agırım Zıvıstanım, payızım, az baharım, az havinim Mahabadım, kamışlo, hevleru amedim Az bakurum, başurum, rojava u rojelatım Az ahazi vuzerim, patrolim, az devlemendim Şina hima, az kulilkim, kez kosoru zerim Kozaye bedevim, ararat o zagrosim Az sarhedim bedinan, az dersim u botanım Kani ajilema, gola urmeye uvanım Az avaşinim, munzur, dijle u fradım Az nemrudim, az kifim, az memuzinim Bu mirovahiye, serçiyaye, cudi limanım Roje dertinim, nevro روزم کاو حسم کارم از زردشتم سال حدینم از پیر سلطانم نویه سومیران که جمدم از دیروکم از گلم از آخم از کردستانم از پلم از برفم و بارانم از تیر بازم آزمانم از بای زوزانم از باری گرانم کلو برینه هزار سالانم از کوینا آخه سورم زخت و زل میرا قربانم از ایسیرم بن زستم از گرتی زندانم لشکره روژه ما خود فارزم از بر خودانم ایوی دارم سبا سرخبونم سبا رزگارم از ولاتم نتوم دل روژه لاتا نابینم از آروکم و دایکم گازی ما و شهیدم دایکه اگید هایری مظلوم و کمال پیرم قهرمانم بیتانم زیلانم از بریبانم دست خوراتکم و سر خوا دهجینم دایکه ملا مصطفى شیخ سایی دو بده خانم بیستو نه جارا سری را گرم از سر هلدانم تک بوشینم شر گرانم از باورم و آرمانجم از هیویا آزادم از کردستانم
Voilà, donc ce qu'on écoutait, je sais pas, t'as le nom du groupe, Julien ?
Je l'avais.
Tu l'avais, voilà. On a trouvé en tout cas...
Cerrado.
C'est... Voilà.
Cerrado et le titre c'est Es Kurdistan Hymn.
Es Kurdistan Hymn, donc un groupe qu'on a trouvé en épluchant le CQFD du mois de février qui est consacré donc à la Turquie, comme on le disait en sommaire tout à l'heure, consacré à la Turquie. Et on a le plaisir de recevoir par téléphone Mathieu Léonard qui a coordonné ce quartier. Bonjour Mathieu.
Oui, bonjour.
Ah super, on t'entend bien. Très bien.
Ça va.
Et bien donc, comme presque chaque mois on reçoit un représentant de CQFD pour parler un petit peu du plat de résistance. Alors évidemment, il y a d'autres articles dans ce numéro-là, on en parlera peut-être à la fin si on a deux minutes, mais on va se concentrer sur ces quelques pages que vous consacrez à la question turque, à Erdogan, à la question kurde aussi. On passe peut-être en revue, merci. Les quelques articles, il y a un truc sur les mots qui tuent et sur la syntaxe d'Erdogan, donc le président de la Turquie. Un article sur la chaîne des violences d'État depuis 1915 et un article sur lequel moi j'avais bien envie de commencer pour la discussion avec toi sur le quartier Gazi et peut-être commencer par ça. Deux militantes assassinées par la police et c'était l'idée de passer un petit peu l'ambiance en Turquie actuellement. Alors qu'est-ce qui vous a donné envie de faire un dossier sur le sujet ?
Bon, ça fait un moment qui s'intéresse au sujet. On avait consacré un numéro en mai sur un reportage qu'on avait fait au Kurdistan, à l'époque où on n'avait pas encore mesuré ce qu'allait être l'engrenage de violence auquel on assiste depuis cet été, en fait. Et donc, voilà, les éléments pour constituer un dossier se sont multipliés. C'est pas du tout une destination si lointaine que ça, en fait. On n'a pas du tout eu un angle comme ça d'aller... au contraire, je crois que c'est un peu... avec la Syrie, c'est un peu l'œil du cyclone, un peu de ce qui se passe de plus dramatique, enfin de plus inquiétant en ce moment. Ça nous concerne aussi dans la mesure où la question des migrants est très prégnante en Europe depuis cet été et va continuer à l'être, et que la Turquie a été désignée par l'Union européenne, mais ça on y reviendra peut-être un peu plus loin, comme l'espèce de garde-fou, en tout cas de garde-frontière, dans un jeu de dupes incroyable où elle fixerait les migrants qui viennent qui fuient la Syrie en grande majorité sur son sol, et moyennant 3 milliards d'euros et une espèce de blanc-seing sur ce qui se passe sur son territoire. Alors, ce qui se passe sur son territoire, tu parlais de Gazi, c'est effectivement pas simplement dans le sud-est anatolien, c'est-à-dire la région à dominante kurde, c'est aussi à Istanbul même, dans la capitale historique, pas la capitale administrative, mais la capitale historique, où dans les quartiers pauvres entrent en résistance. En tout cas, c'est des quartiers qui sont extrêmement agités par l'effervescence du moment. Et Gazi, c'est un quartier à dominante alévi, c'est-à-dire une branche un peu hétérodoxe, non reconnue par la majorité sunnite, hein, puisqu'il y a des enjeux aussi religieux, même si ce sont souvent des prétextes nationalistes. Et c'est un quartier d'extrême gauche. Alors hier encore, il y avait des affrontements dans ce quartier entre les jeunes et la police. Il y a eu 60 d'arrestations et 4 blessés. Et donc là, on revient sur une descente de police qui a fait dans un appartement qui a fait deux mortes en l'occurrence, des militantes d'extrême gauche qui ont été assassinées d'une façon atroce. On ne détaille pas dans l'article, mais on vous passe les détails donc. Voilà, ils ont été criblés de balles et voilà, ça donne un peu la tonalité, en tout cas, des éléments de la violence qui se passe entre l'État turc et des forces d'opposition désignées comme terroristes d'une façon façon globale, quoi.
Alors une violence dont on a l'impression qu'elle est assez récurrente pour toute l'année 2015. On va pas rentrer dans le détail. Moi, je voulais prendre ça comme un point d'entrée. Mais il y a quelques attentats qui, malgré leur ampleur, ont pas forcément eu beaucoup d'écho en France. On peut citer peut-être trois attentats symptomatiques de cette violence qui est très ciblée, hein, contrairement à ce que nous on a pu connaître dans l'Hexagone il y a quelques temps. On a un petit peu l'impression que les gens sont choisis au hasard. Là, on a des attentats qui sont, donc j'en citer trois, mais un attentat en juin, un attentat en juillet, un en octobre. À chaque fois, ils sont dirigés contre des rassemblements, des meetings de partis, alors gauche non nationaliste, sympathisants kurdes, mouvements syndicaux. Trois attentats qui ont fait pour le premier 4 morts, si je ne me trompe pas.
À Diyarbakir, oui.
Diyarbakir. Un deuxième, donc c'était déjà des attentats dont les modes opératoires n'ont rien à envier à ce qui se passe ailleurs. Un attentat en juillet contre un groupe de jeunes socialistes, où là, il y avait eu 33 morts, un attentat à la bombe.
À la frontière syrienne, où les jeunes qui se rendaient à Kobané pour essayer de voir comment reconstruire la ville. Hein,
voilà, et un dernier attentat qui a eu lieu en octobre, où là, il y a carrément eu plus d'une centaine de morts, un double attentat à la bombe. Une violence alors qui s'exerce, là pour l'exemple qu'on donnait dans le quartier Ghazi, là c'est la police qui tire sur des militantes d'une organisation interdite, des attentats qui sont pas forcément signés, même si on devine un peu d'où ils viennent dans la sphère politique, contre des forces d'opposition au pouvoir, et on a dans ce contexte-là l'impression qu'en fait Erdogan assoit largement son pouvoir et choisit ses alliés en fonction d'une grille politique intérieure au pays. Peut-être on peut aborder des thématiques que vous abordez dans un autre article, vous, un article sur la chaîne de violence d'État depuis 1915. Toi, tu as fait un entretien avec un historien, Étienne Copeau. Je sais pas, est-ce que tu peux évoquer un peu ce que vous avez abordé dans cet entretien?
Oui, alors Étienne Copeau, c'est l'animateur d'un blog, Suzanne Sokak, mais c'est aussi un chercheur. Il y a un historien-chercheur sur la Turquie contemporaine. Et effectivement, récemment, il s'est rendu aussi avec une délégation dans la zone Kurdistan de la Turquie. Et voilà, il observe depuis longtemps les phénomènes nationalistes, en Turquie. Il essaie d'en décrypter un peu les codes, etc. Donc, voilà, il y a effectivement cette récurrence de violence, hein, on parle de 2015, c'est vrai qu'il y a eu 2 années, sensiblement, entre 2012 et 2015, on va dire 2013-2012 et 2015, où il y a un moment où il y a eu moins de violence, en tout cas, ça semblait un peu pacifié, il y avait des recherches, en tout cas, aussi bien de la part de l'État que de la part des groupes kurdes, par exemple, de solutions politiques et de couvre-feu.
Il y avait des perspectives.
Il y avait des perspectives démocratiques, mais on s'aperçoit que chaque fois que ces perspectives démocratiques avancent, et puis finalement chaque fois qu'on permet au mouvement kurde d'aller dans la voie de processus démocratique, c'est-à-dire à la fois d'une autonomie démocratique dans leur mode même d'auto-gouvernement, ce qui n'implique pas la sécession, ce qui n'implique pas le séparatisme, contrairement à ce que projette ce que dit l'État turc, c'est-à-dire ce sont des séparatistes, des terroristes, etc. Non, chaque fois qu'ils essaient d'engager un processus où à la fois ils s'auto-organisent et à la fois ils participent à un jeu électoral qui est de plus en plus large, puisque le parti HDP, c'était une coalition à la fois pro-kurde, mais qui réunissait aussi des éléments de la gauche non-nationaliste, pour le coup. Donc chaque fois qu'il y a ces processus-là qui sont enclenchés et qui suscite aussi l'adhésion de beaucoup de Turcs qui veulent un pays non autoritaire, on va dire ça rapidement comme ça, eh bien, il y a un retour de bâton qui est énorme.
Et qui est sanglant. J'avais envie de citer, alors vous-même, vous citiez une interview qu'avait donnée au Monde de Cemil Bayık, cofondateur du PKK. Il disait, si cette situation continue, les gens d'ici vont prendre les armes et ce sera sanglant. Je ne souhaite pas qu'on en arrive là. Nous serons peut-être forcés de mener le combat contre l'État, mais nous ne sommes pas en position de le remporter. Et bon, ce qui est intéressant dans ce dossier, c'est qu'on comprend bien comme ça des gens qui sont acculés, on a Erdogan qui profite de nouveaux crédits que lui apporte l'Union européenne, hein. Tu l'as évoqué tout à l'heure, mais une reprise, alors qui sera peut-être qu'une façade, mais reprise des négociations sur l'entrée de la Turquie en Europe. On peut rajouter, c'est la question des la facilitation des visas pour l'espace Schengen pour les Turcs. On imagine que ça, c'est un truc qui doit sans doute faire avaler quelques pilules un peu amères en Turquie. Et en fait, il se positionne, tu avais rappelé le chiffre, hein, 3,5 milliards d'euros donnés pour l'aide aux réfugiés. En fait, on a la Turquie qui, sous prétexte de la sous-traitance de la question des réfugiés, qui déjà fait pas mal de ramdam en Europe, alors que la plupart des réfugiés sont accueillis en Turquie, profite de ça pour, on va dire, faire taire toute opposition et faire taire toute contestation éventuellement internationale contre le sort réservé aux Kurdes, contre le sort qui est réservé aussi à d'autres opposants. Il fait un petit peu penser à Poutine, hein, dans certaines de ses envolées lyriques, quand Poutine parlait d'aller exterminer les Tchétchènes jusque dans les chiottes, hein, je cite dans le texte. Vous reprenez quelques propos d'Erdogan qui n'ont rien enlevé à cette brutalité-là. C'est un article que tu as signé encore, hein. Erdogan, une syntaxe de brut, est-ce qu'on peut parler un petit peu de ce monsieur là et quels sont qu'est-ce qu'il poursuit en fait à travers ses alliances, son drôle de jeu avec l'État islamique en Syrie.
Ouais, alors on va en venir, mais c'est tout à fait juste tout ce que tu as dit. On s'aperçoit que Erdogan, pour l'instant, jusqu'à présent, en fait, enfin depuis cet été et jusqu'à présent, il a réussi comme ça à donner le change, y compris vis-à-vis de l'Union européenne, puisque Le Drian est allé en visite en début janvier en disant qu'il était d'accord sur la lutte antiterroriste de l'État turc. Cazeneuve ira probablement en avril donner des conseils et des savoir-faire, voire ouvrir des marchés au maintien de l'ordre façon antiterroriste. Donc il y a ce langage commun finalement. Ça marche, c'est qu'il y a un langage commun de l'antiterrorisme dont profite Erdogan. C'est-à-dire que depuis cet été, depuis l'attentat de Sourouche, il a dit vouloir lutter contre Daesh. Et en fait, tous ses coups se sont focalisés sur les Kurdes, à la fois les Kurdes en Turquie. Et désormais, depuis la semaine dernière, enfin depuis quelques jours même, il attaque des positions kurdes, de zones de contrôle kurdes en Syrie. Donc on voit bien qu'il y a une obsession chez lui, et que c'est plus facile pour lui de faire la guerre que de chercher des compromis de paix. Donc Erdogan est dans un processus comme ça. Alors il faudrait faire. On a essayé de voir un peu de quelle façon un caractère autoritaire comme ça en vient à prendre de plus en plus de pouvoir, justement, et aussi avec un appui de la population. Hein, faut dire, je pense qu'il y a un tiers des Turcs qui sont pour des solutions comme ça de règlement par la force de la question kurde, par exemple, quoi, ou de négation complète de la question kurde. Donc il y a effectivement cette montée en puissance de l'autoritarisme à la tête de l'État, et il y avait ces soupçons, enfin il y a beaucoup d'indices qui sont avérés, de collusion entre certains éléments de l'AKP, donc qui est le parti au pouvoir, et des djihadistes, voire Daesh, jusqu'à une période assez récente, puisqu'il y a encore, là, je vais rappeler un fait, là, c'est que deux journalistes, Can Dündar et Erden Gül, risquent actuellement la perpétuité pour avoir révélé dans le journal Cumhuriyet des faits avérés de livraison d'armes et de logistique de camions entiers, enfin d'un convoi de camions entiers, de la part des services des forces turques, à des groupes islamistes syriens. Oui. Donc à l'époque, sans doute, avant l'État islamique, mais sans doute, ce qui a raisonné l'État islamique.
Alors ça, pour le coup, le côté journaliste, ça avait donné un petit peu d'écho à l'affaire. Ouais. Alors ceci étant, Mathieu, merci beaucoup, mais on a un invité pour l'heure après. On a un peu débordé, là, on va devoir enchaîner. Merci de nous avoir accordé un peu de temps. On rappelle, donc c'est merci le CQFD du mois de février. Évidemment, voilà. Les articles là qu'on vient d'évoquer, on peut les retrouver en intégralité. Et d'autres choses encore, hein. Il y a quelques blogs qui sont référencés dedans. De la musique aussi, on en a passé un morceau tout à l'heure. Merci, bravo, et au mois prochain pour un autre dossier. Précipitez-vous chez vos kiosquiers, chers auditeurs, chères auditrices. Et voilà. Merci. Bonne journée, salut.
Salut.
ville. Puis bien loin en arrière, la rage d'avoir grandi trop vite. Quand des adultes volent ton enfance, pas imagine un mur et impoli la rage. Car impossible et cette paix d'en voulu la rage de voir autant de CRS armés dans nos rues. La rage de voir ce putain de monde s'autodétruire et que ce soit toujours des innocents au centre des tirs. La rage, car c'est l'homme qui a créé chaque mur, ses barricades et béton. Aurait-il peur de la nature? La rage, car il a oublié qu'il en faisait partie des harmonies profondes. Mais dans quel monde la colombe est partie? La rage d'être autant balafré par les piquants des normes. Et puis la rage, ouais la rage d'avoir la rage depuis qu'on est mort. On restera debout quoi qu'il arrive. J'allais jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. On pourra plus taire ni s'asseoir, dorénavant on tiendra prêt parce qu'on a la rage, le cœur et la foi. Quoi qu'il arrive, j'allais jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. Rien ne pourra plus nous arrêter, insoumis, sage, marginal, humaniste ou révolté. La rage, parce qu'on choisit rien et qu'on subit tout le temps. Et vu que leurs choix sont bancales, et ben tout équilibre fout le camp. La rage, car l'irréparable s'entasse depuis un bout de temps. La rage, car qu'est-ce qu'on attend pour se mettre debout et foutre le bouclier? La rage, c'est tout ce qui nous laisse, façon, tout ce qui nous reste. Car combien des nôtres finiront par retourner leurs fesses? La rage, de vivre et de vivre l'instant présent, de choisir son futur libre et sans leur cri d'oppression. La rage, car c'est la merde. Que ce monde y adhère, parce que tout l'argent OGM stérilise la terre. La rage pour qu'un jour l'engrenage soit brisé. La rage car trop lisse vérité sur leur écran télévisé. La rage car ce monde ne nous correspond pas. Nous nourrissent de forêts pour placer nos remparts. La rage car ce monde ne nous correspond pas. Où Babylone s'engraisse pendant qu'on crève en bas. On restera debout quoi qu'il arrive. J'allais jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. On pourra plus se taire ni s'asseoir. Dorénavant on tiendra prêt parce qu'on a la rage, le cœur et la foi. Quoi qu'il arrive, j'allais jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. Rien ne pourra plus nous arrêter, insoumis, sage, marginal, humaniste ou révolté. La rage d'y croire et de faire en sorte que ça bouge. La rage d'un Chirac, d'un Charonne, d'un Tony Blair ou d'un Bush. La rage car ce monde voit rouge, mais de cris ça y s'entourer. Parce qu'ils n'entendent jamais les cris lorsque le sang coule. La rage car c'est le pire que nous frôlons. La rage car l'Occident n'a toujours pas ôté sa tenue de colon. La rage car le mal tape sans cesse trop et que ne sont plus mis au bout du jour. Tant de grands apports ancestraux. Trop de mensonges et de secrets gardés. L'élite de nos états riche de vérité pouvant charger l'humanité. La rage, car ils ne veulent pas que ça change. Ils préfèrent garder leur pouvoir et nous manipuler comme leurs anges. La rage, car on croit aux anges et qu'on a choisi de marcher avec eux. La rage, parce que mes propos dérangent. Faut aux quatre coins du globe. La rage du peuple, l'ébullition. La rage, voilà la rage ou l'essence de la révolution. On restera debout quoi qu'il arrive. J'allais jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. On pourra plus se taire ni s'asseoir. Dorénavant on tiendra prêt parce qu'on a la rage, le cœur et la foi. Quoi qu'il arrive, j'allais jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. Rien ne pourra plus nous arrêter, insoumis, sage, marginal, humaniste ou révolté. Je resterai debout quoi qu'il arrive, j'allais jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. On pourra plus se taire ni s'asseoir, dorénavant on tiendra prêt, parce qu'on a la rage, le cœur et la foi. On restera debout quoi qu'il arrive, j'allais jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. Rien ne pourra plus nous arrêter, insoumis, sage, marginal, humaniste ou révolté. Altermondialisme, et toi qui cherches la vérité sur ce monde, la résistance de demain, Inch'Allah, à la veille d'une révolution, Inch'Allah, spirituel, rage du peuple, Arabia del pueblo, parce qu'on a la rage, elle qui fera trembler tes normes, parce qu'on a la rage, elle qui la populace, et la rage est énorme, énorme, énorme.
Retour sur les ondes, le front du lundi 92.2, on continue, on va rester dans le même secteur géographique, nous étions en Turquie, on va se déplacer vers la Palestine. On va parler avec Mustapha Mouhamad, donc docteur en géographie, universitaire palestinien. Bonjour, peut-être compléter un petit peu cette présentation un tant soit peu réduite. Je pense que tu as des choses à rajouter pour te présenter.
Merci. Et d'abord, salam alaikum. Bonjour à vous. Bonjour à vous, mes amis français qui m'écoutent. Merci à Radio et Canal Sud de m'avoir donné cette chance de parler avec nos amis français. Et je m'appelle Mohamed Mustapha. Et je suis palestinien. Je suis arabe palestinien. Et de village qui s'appelle, ou de quartier qui s'appelle Essaouia, le village de Jésus, qui se trouve à 2 km au nord de la vieille ville. Et je suis de culture païenne, juive, chrétienne et musulmane. Mais aussi j'ai des pratiques laïques tous les jours. C'est ce qu'on a têté de nos mères. On n'a pas besoin des lois pour vivre. La liberté d'expression et la laïcité, c'est quelque chose qui existe dans notre mode de vie. Et avant de commencer de parler de la Palestine, je voudrais rappeler qu'aujourd'hui, ça fait 82 jours que Mohamed El-Qik, journaliste palestinien, qui a 3 enfants, ça fait 82 jours qu'il fait la grève de la faim pour être libéré parce que l'armée de l'occupation sioniste l'avait emprisonné et il subit la détention administrative. C'est très fréquent. Il est très utilisé par l'armée de l'occupation. La détention administrative est une arrestation par l'armée de l'occupation aux Palestiniens. Ils n'ont aucune condamnation, ils n'ont aucune accusation. Ils n'ont pas le droit d'avoir un avocat. Ils n'ont pas le droit à la cour. Et donc, ils sont tout simplement mis en prison pour 6 mois, renouvelables. Il y a des prisonniers qui ont 20 ans de détention administrative. Et notre ami Mohamed El-Qik, qui souffre aujourd'hui dans la prison, 82 jours de grève de la faim, a besoin de nous pour pousser l'armée de l'occupation à le libérer avant qu'il trouve la mort. Et lui, il dit soit la liberté, soit la mort. Et je suis avec lui pour la liberté, j'espère pas pour la mort. Voilà, vous m'avez présenté comme urbaniste. En fait, je ne suis pas là pour parler de l'urbanisme en Palestine, et surtout Jérusalem-Est. Je préfère dire la partie Est de la ville de Jérusalem. Parce qu'il n'y a aucun plan ni schéma directeur qui est suivi, qui est appliqué dans la partie Est de la ville de Jérusalem. Parce que nous sommes dans des cantons enfermés et nous subissons un plan d'extermination. Donc, il n'y a pas d'urbanisation, il y a plutôt un schéma directeur d'extermination mis en place et appliqué par l'occupation israélienne, ou je préfère dire l'occupation sioniste.
Je te propose justement, on va partir de là, on va partir de ce qu'on sait, on va écouter Pierre Stamboul là, qui va nous raconter un petit peu cette colonisation de Jérusalem-Est, et on va partir de là pour raconter tout ça, sortir, tu l'as dit tout à l'heure, on va sortir Dieu de cette affaire et on va montrer à quel endroit il s'est implanté partout, et on va montrer comment est-ce que cette occupation qui dure depuis déjà beaucoup trop longtemps, qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça provoque, et comment ça se passe aujourd'hui. Donc on écoute un tout petit peu Pierre Stamboul, on va réagir là-dessus, on va partir, on va monter dans un... On va parler aussi d'un tramway, français. Ça va nous permettre de parler de la France aussi, de son implication dans cette affaire-là. Et peut-être qu'on aura 2-3 choses à dire sur comment est-ce qu'on sort de cette affaire aussi un peu.
Depuis, à Jérusalem-Est, d'après les accords d'Oslo, Jérusalem-Est devait devenir la capitale de l'État palestinien. Depuis, quand les Israéliens ont pris Jérusalem-Est en 1967, la ville jordanienne, c'était un tout petit territoire autour de la vieille ville. Et puis aujourd'hui, Jérusalem-Est, ils ont multiplié par 10 sa superficie, ça va de Ramallah à Bethléem, ça couvre un pourcentage non négligeable du territoire de la Cisjordanie, et les Israéliens ont installé partout des colonies. Ils occupent maintenant 80% de l'espace à Jérusalem-Est, mais ils continuent à être très légèrement minoritaires. Les Palestiniens entassés dans leur quartier continuent de former 51-52% de la population de Jérusalem-Est. Le but clair aujourd'hui de la direction israélienne, c'est de judaïser Jérusalem-Est et d'en chasser les Palestiniens. Surtout que les Palestiniens de Jérusalem-Est ont un statut particulier. Ils ont une carte de résident qui leur permet d'être un peu plus indépendants de ceux de Cisjordanie au niveau des déplacements. C'est un statut un petit peu particulier. À Jérusalem-Est, au fur et à mesure, il y a des super colonies qui se sont installées, Psagot, Ramot, Pisgat Zeef, avec le tramway construit par les Français, Alstom, entre Jérusalem-Ouest et Pisgat Zeef. Et puis, y compris maintenant dans les quartiers palestiniens, à Sheikh Jarrah et à Silwan, il y a des colons qui s'installent. Alors, je vous parlerai tout à l'heure de l'utilisation par les sionistes de la question de la Bible, mais à Silwan, les Israéliens ont décidé que le roi David avait vécu à Silwan. Et donc, dans ce quartier palestinien, ils installent le musée du roi David, la maison du roi David, le parc du roi David. Quand j'y étais la dernière fois en 2010, déjà 1600 colons s'étaient installés dans Silwan. il y avait une centaine de maisons palestiniennes qui avaient déjà été détruites. Et je vous expliquerai un peu plus tard que la plupart des grands archéologues israéliens doutent de l'existence historique du roi David. C'est en tout cas au nom de lui qu'actuellement se fait le nettoyage ethnique dans le quartier de Silwan.
Voilà, c'était Pierre Stamboul. Plein de choses ont été dites et il reste plein de choses à dire. Est-ce que tu as déjà des commentaires à chaud, hein? Tu ne l'avais pas entendu avant, hein, faut le dire. Là, tu l'écoutes. Mmh. J'imagine que tu as plein de choses à rajouter.
Ouais, d'abord, merci à Pierre Stamboul. C'est quelqu'un que j'ai rencontré durant ma tournée il y a 4 jours et j'apprécie beaucoup cette personne. Il fait partie de ces Français qui luttent quotidiennement pour faire appliquer la justice et pour rendre les droits et appliquer les droits au peuple palestinien, pas que au peuple palestinien, parce que mes amis français sont engagés à plusieurs fronts. Nous sommes humains et nous avons des valeurs humaines et notre combat est commun et notre ennemi est commun aussi. Donc, Pierre, il vient parler de notre statut. Nous sommes résidents permanents et je préfère dire plus clairement, nous sommes des étrangers qui habitent dans l'État israélien. C'est comme ça. Nous avons une carte de séjour renouvelable tous les 10 ans. C'est notre statut. Donc, j'ai besoin d'un visa pour sortir et j'ai besoin d'un visa pour revenir chez moi. À Jérusalem, nous sommes aujourd'hui...
Excuse-moi, tu as besoin quand tu quittes là où tu es, tu prends un visa. Quand tu rentres, tu prends un visa. Exactement. Et c'est bien l'autorité israélienne qui te la donne.
Oui, oui, parce que Jérusalem a été annexée. D'abord, elle a été occupée en 1967, annexée en 1980 et déclarée capitale, et bien sûr, non reconnue par la communauté internationale, déclarée capitale de l'entité sioniste. Maintenant, notre statut, et pour nous, les Palestiniens à Jérusalem, c'est tel que je viens de le mentionner, nous sommes 350 000 Palestiniens. Et veuillez m'excuser, mes amis français, je vais utiliser la définition religieuse. Nous sommes musulmans et chrétiens. Et pourquoi j'ai utilisé, et moi j'aime pas du tout utiliser, surtout mettre en avant l'appartenance religieuse ou la tradition religieuse, c'est quelque chose d'intime. C'est parce que tout simplement, notre ennemi, il a mis en avant, il a instrumentalisé, et c'est devenu son fonds de commerce, la religion. Donc, vu qu'il est juif, forcément, je suis pour lui, le non-juif. Et vu que je suis le non-juif, comme il a été mentionné dans la promesse de Balfour, le ministre des Affaires étrangères anglais en 1917, c'est promettre le peuple juif un État juif, foyer national juif. Et les non-juifs qui sont en Palestine, qui étaient entre chrétiens et musulmans, 96% de la population, non, 96% de la population étaient les non-juifs, avaient le droit à des droits civils. Donc, aujourd'hui, les Palestiniens sont définis par leur appartenance religieuse et ils sont aujourd'hui 35% de la population palestinienne de Jérusalem. Donc, les restes, c'est 65% juifs. Encore une fois, je fais appel à la religion. Et les chrétiens, aujourd'hui, sont moins d'1%. Donc, la terre de la chrétienté, aujourd'hui, il est vide de ces chrétiens. Et les chrétiens étaient à peu près 17-18% avant la création de l'État d'Israël. Ils sont aujourd'hui en Palestine. Aujourd'hui, ils sont moins d'un pour cent. Et je me demande si ce n'est pas une politique de nettoyage ethnique et occidental, et je répète occidental, de nettoyer ou de faire sortir et d'émigrer surtout les chrétiens vers l'Occident. On avait 5 millions de chrétiens en Irak. Aujourd'hui, on a à peine 800 000 et la plupart ils sont reçus en Europe et ailleurs, en Canada, en Australie, les chrétiens de la Syrie. Donc il y a une volonté ou il y a une politique voulue, institutionnelle, par l'Occident pour vider l'Orient de ces chrétiens. Qu'est-ce qu'ils préfèrent? Je ne sais pas. Je n'ai aucune idée de ce qu'ils veulent faire là-bas, pourquoi ils sont en train de vider les chrétiens de la Palestine. Mais en tout cas, je
oui,
vous en prie.
Oui, parce que ça se tenait à cœur, cette idée à un moment qu'on a mis Dieu dans le conflit, tu me disais ça tout à l'heure, on a mis Dieu dans le conflit, et on a entendu là, Stamboul parler du tombeau du roi David, et comment est-ce que les Israéliens cherchent à inscrire la Bible dans les murs, etc. Et j'aimerais que tu me racontes comment ils se confessionnalisent ce conflit. Parce que souvent, on nous le dit, oui, le conflit se confessionnalise, oui. On parle de... Comment ça se passe concrètement, en fait?
Concrètement,
parce que tu dis, toi, tu te défends définit pas. Tu parles d'une identité multiple.
Oui, bien sûr.
Et puis, et là, on toujours... voit bien que quand tu veux décrire, il y a un moment où c'est comme si forcément il fallait qu'on parle de musulmans, de juifs, oui, et de chrétiens. Comment ça se passe concrètement, cette assignation à une identité religieuse?
Le plus importante erreur qu'il y a eu le XXe siècle, c'est de fonder un État religieux au Proche-Orient. C'est l'erreur fondamentale dans cette région. Ça stimule la revendication d'avoir un État islamique. Voilà, on a Daesh. Si vous lisez l'histoire de l'entité sioniste et vous lisez l'histoire de Daesh, c'est kiff-kiff. C'est la même chose. L'un a abouti par une reconnaissance d'un État juif et l'autre, l'histoire a fait que la Russie intervient et hop, on va les éliminer et j'espère que ça va être plus rapidement que nos amis syriens puissent revenir vivre chez eux dignement. Donc, l'instrumentalisation de la religion, ce n'est pas quelque chose de neuf. A été déjà fait et utilisé au XVIe siècle dans la politique de colonisation impériale dans la Terre Neuve, en Amérique du Nord et en Amérique latine. Et cette politique qui a été mise en place avait besoin d'un discours pour justifier cette extermination et ces pillages. Il ne faut pas oublier que le capitalisme aujourd'hui, ce capitalisme moche et avide d'argent, et trouve ses racines dans le pillage de l'or qu'on a volé aux Amérindiens. L'Europe a triplé sa quantité ou son réserve d'or en Europe grâce à ce pillage. Et c'est pourquoi ils ont aussi massacré et exporté le dieu des Indiens. C'est exactement la même chose. C'est une colonisation impériale qui est basée sur l'extermination, qui continue aujourd'hui. Mais il faut toujours un discours religieux. Il faut toujours montrer qu'on a des valeurs. Et ces valeurs morales et éthiques, alors que l'Europe, ça fait 400 ans qu'il a un déficit de valeurs morales et éthiques, il faut montrer que ces valeurs morales et éthiques qui nous poussent à aller intervenir, comme il a fait Bush, comme il a fait Hollande ou Sarkozy, que ce soit en Libye ou que ce soit en Syrie, vous savez les conséquences. Et l'antisioniste utilise la même chose. Là, vous venez de mentionner comme Pierre Stamboul, le roi David. Déjà, le roi David, historiquement, archéologiquement, n'a jamais existé. Ok, moi je suis croyant. Mais je n'ai pas besoin, pour ma foi que je pratique chez moi, à la maison, pour être apaisé et que puisse trouver des forces pour respecter l'autre. Et d'ailleurs, la prière chez les musulmans, c'est pour les apaiser. Et surtout, la nature de l'homme, elle est un peu agressive. Donc, il faut que cette prière apaise. Là, l'entité sioniste utilise cette religion pour coloniser. Donc, l'archéologie devient un outil, pas un outil scientifique, non, mais un outil politique d'extermination. Donc, David, il arrive, il devient partout, avec l'entité sioniste, le tour de David, donc le tour de Jérusalem, ça devient le tour de David. Après, ça devient le falafel de David, la route de David, le coiffeur de David. Donc, David, ça devient à la fois un mythe fédérateur, mais aussi banal, parce qu'il devient aussi un outil de confiscation. Dans le cas ici, David avait un parc, soi-disant, je l'imagine comme Louis XVI, il avait un parc avec des chiens, et il sortait pour s'y balader. D'après la version sioniste, son parc existe ou existait là où, dans la région de Silwan, dans la localité Bostan. Le Bostan, c'est un petit jardin où il y a à peu près 80 maisons. Pour rebâtir le parc de David, il faut démolir 80 maisons palestiniennes à Silwan, un des plus anciens villages de la Palestine. Et donc, ce n'est pas David et ce n'est pas son parc. C'est qu'un outil. Mais l'objectif, c'est de faire exterminer cette population, la faire pousser à partir, et il l'utilise quotidiennement. Il y a une politique d'écarter, d'assigner, éloigner. Voilà, la politique qui est utilisée, ça fait 3 ans à Jérusalem, c'est éloigner la population de chez elle. On l'éloigne pour 6 mois, 1 an, comme Salah Hamouri ou d'autres personnes qui ont subi cette politique, d'éloigner la population. Donc, cette politique et cette instrumentalisation encharnée de la religion est voulu, et c'est le fonds de commerce de l'entité sioniste, mais aussi il a un soutien ici. Parce que quand j'entends les médias français parlent autant de l'islam comme un monstre qui va bouffer la France. Après, vous avez aussi un discours antisémite de Valls qui essaye de montrer que les Juifs sont intouchables, que la France ne peut pas être la France sans les Juifs. Les Juifs, ils sont un composant de la société française. Ils sont à égalité avec tout le monde. Et ce n'est pas la peine de montrer aux Français que mon Juif, il est intouchable, parce que cette politique, ça va faire stimuler ou créer une certaine sensation indésirable chez les Français de trouver que l'État a un chouchou à elle que personne n'a le droit de toucher. Ça, c'est un. Deuxièmement, vous avez la CRIF. La CRIF ne représente que 5% de la population de confession juive en France. Et lui, il se permet de parler à leur nom. Il se permet de s'afficher et de montrer qu'il, lui, qu'il décide en quelque sorte. Je pense qu'on a vu tous à travers la télévision. Et c'est le problème qu'il affiche, il montre. Donc cet affichage, c'est pour avoir une réaction, un sentiment indésirable envers cette communauté. Et ça, on la voit. Et avec Dieudonné, c'était la même chose, que Valls et Dieudonné. Donc, il y a une certaine politique institutionnelle de l'État d'augmenter l'antisémitisme. Pourquoi ? C'est exactement ce qu'il a fait Sharon et Netanyahu. Quand ils sont venus ici, ils ont dit « Oh, juifs, rentrez chez vous. » Les juifs qui se sont convertis au 9e siècle au Khazar, 98% des juifs européens se sont convertis. Alors, les juifs palestiniens, ce sont les juifs de la Palestine, ou la Palestine, les Palestiniens aujourd'hui. Ils ont dit « Rentrez chez vous. » Donc d'abord, il s'est mêlé des affaires de l'État français et là, il n'a aucune réponse. Il est dans l'impunité. De toute façon, Israël est dans l'impunité totale. Il peut exterminer, faire ce qu'il veut. Et deuxièmement, il y a une politique française et d'augmenter l'antisémitisme parce que de l'autre côté à Tel Aviv, où il y a 65% de la population israélienne habite à Tel Aviv, le sud et le nord, il est vide. C'est là où il y a le port et l'aéroport. Ils habitent les Israéliens. Les gens là-bas, il y a aujourd'hui, il y a une intifada, l'intifada de Jérusalem, et les gens ne peuvent pas supporter l'insécurité. Donc, ils préfèrent revenir là où ils ont un double passeport et une maison secondaire. Souvent, c'est Marseille, Nice, Pologne, Varsovie ou l'Allemagne, là où ils sont venus. Et donc, c'est là où il faut augmenter l'antisémitisme en Europe pour que celui-là qui est à Tel Aviv, quand il décide de revenir chez lui ou de quitter à cause de l'insécurité, il dit « Mais, je quitte Tel Aviv et je vais à Paris, mais l'insécurité contre les Juifs est là-bas aussi. Donc non, finalement, je reste là où il y a l'armée sioniste pour me défendre. » Vous voyez, il y a une politique voulue de l'antisémitisme et cette entité sioniste n'a pas le droit aussi, en tant que Palestinien, qui a une partie de sa culture est juive, Israël n'a pas le droit de parler au nom des Juifs et n'a pas le droit aussi de faire venir, de décider de faire venir les Juifs du monde en Palestine. Ça, c'est de l'antisémitisme.
Et tu as bien une autre participation française hein, à la colonisation, c'est Stramway. Stramway construit à Jérusalem. J'y reviens parce que nous, on l'a vendu, on l'entend comme ça quand on regarde comme ça d'une oreille distraite, j'allais dire, ou d'un œil distrait, comme un lien entre des quartiers. Et c'est marrant parce que tout à l'heure, je t'ai dit Jérusalem-Est, parce que c'est ce que j'ai entendu. Toi, tu me dis, mais c'est bon, moi, je ne dis pas Jérusalem-Est parce que ce n'est pas Berlin, ce n'est pas découpé, etc. Et c'est vrai qu'on nous a vendu ça comme un espèce de lien entre des quartiers forcément confessionnels et en guerre, hein, parce qu'on nous vend toujours cette guerre comme une guerre confessionnelle, avec des choses irréconciliables, hein, en fait, des vieilles histoires. Hein, ça fait quand même 3000 ans qu'on s'embrouille là-bas. Et du coup, tu me dis oui, mais déjà, ce tramway, il a un arrêt là, et puis en plus, c'est là où un jeune Palestinien s'est fait assassiner, notamment parce que les colons sont venus en tramway. Est-ce que tu peux nous raconter un peu cette histoire-là ? Est-ce qu'on peut revenir là ? Alors, c'est Alstom hein, qui fait ce tramway. Hein, c'est vraiment une participation de la France à amener finalement les colons de colonie en colonie, quoi.
Ouais. D'abord, je voudrais parler de mon admiration pour cette force des Français qui sont à côté de nous pour se battre contre l'injustice. Et c'est grâce à eux et aussi une partie de l'Europe comme l'Irlande qu'on a réussi à se faire pousser Alstom et Connex de se désengager de la gestion de tramway. Et ça, il ne faut pas oublier.
D'accord, ils se sont désengagés de la campagne BDS.
Grâce à nos amis qui travaillent comme un travail de fourmi. C'est admirable. J'adore leur force de travailler. Alors, ils subissent l'état d'urgence. L'état d'urgence, que je rappelle, mes amis français, est très l'un des plus dangereux que peut arriver à un peuple. D'ailleurs, mon père, il m'a dit à tes amis français que les peuples syriens, quand ils se sont révoltés, ils se sont révoltés pas pour la liberté d'expression, ils se sont révoltés pour une seule demande, c'est lever l'état d'urgence. Parce qu'on ne peut plus vivre une trentaine d'années sous l'état d'urgence. Donc, mon père vous dit, faites attention, ça arrive vite, ou vous êtes sous occupation, où vous n'avez aucun droit, ni le droit de manifester, ni vous, le droit de réclamer vos droits. Donc, sur le rôle de la France dans la colonisation en Palestine, d'abord, la France a aussi à peu près 600 000 compatriotes français, que ce soit dans les colonies ou que ce soit à Tel Aviv, et ils violent le droit international, ils violent les résolutions des Nations Unies, comme la France le viole, mais aussi ses concitoyens. Et la création de cette ligne de tramway entre Jérusalem-Ouest, ce qu'on appelle Jérusalem-Ouest, et les colonies à Jérusalem-Est, a été aussi un viol de droit international, et pas que, aussi un viol de droit local français. Ils ont violé leurs propres droits et leurs propres lois, les Français, en bâtissant un tramway là-bas. Ce n'est pas leur première fois, ils sont récidivistes, parce qu'il ne faut pas oublier que la France, en 1956, a condamné 350 millions d'Arabes à un génocide lent. Oui, à un génocide lent. La France n'est pas innocente. Elle a bâti le nucléaire français et israélien. Donc le nucléaire israélien qui nous fait subir la politique de l'impunité israélienne depuis 1956 jusqu'à aujourd'hui, c'est la France qui a bâti ce nucléaire. Donc la France est très présente dans ce conflit. Et donc, on parlait de tramway. Quand ils voulaient vendre ce tramway à la population, ils ont fait venir des sociologues pour parler à la télévision. Voilà pourquoi l'Europe investit dans ce tramway. Parce que, soi-disant, les juifs, les musulmans, les chrétiens, encore une fois, ils nous réduisent un juif, musulman, chrétien. Il ne voit rien que juif, chrétien, musulman. On est des êtres humains. On a des valeurs humaines qui ne sont pas que religieuses. Il y a une partie qui vient de la religion, mais aussi il y a une partie qui vient de cette émancipation humaine depuis le départ jusqu'à aujourd'hui. Et donc, ils se sont dit, pour que ces trois religions monothéistes cohabitent, on va leur faire un tramway. Oh, excellent! Sauf ce tramway, il lie les colonies. Il viole le droit international, pas que. Mais il y a aussi une station à Shoafat où les Israéliens passent. Nous, on n'utilise pas beaucoup le tramway. Et donc, ça sert pour eux. Il a été créé pour eux. Donc, il y a une station qui passe dans la localité palestinienne à Jérusalem. Et c'est là où on a fait une erreur. Vraiment. On a dû résister jusqu'au dernier pour empêcher ce tramway. Parce que le colon est entré chez nous, dans notre ghetto, dans notre canton, là où on est enfermé, et il a vu, il a surveillé ce qu'on fait. Et il a su qu'à 5h du matin, Mohamed Aboukhder, il va prier, un gamin de 15 ans, il est allé, il l'a kidnappé, et il l'a brûlé vif. Il l'a brûlé vif, imaginez-vous, votre enfant, il va à l'école, et après vous apprenez qu'il y a une catastrophe qui est arrivée. Donc, à ce moment-là, les Palestiniens de Shoafat, ils n'ont pas pu accepter le passage de tramway, mais l'armée israélienne, aujourd'hui, contrôle entièrement Shoafat pour laisser passer ce tramway. Mais le colon ne prend pas le tramway, il passe souvent vide. Donc, il préfère attendre le tramway à l'extérieur du village. Donc, c'est une politique colonialiste. La France est très présente. Et il continue, c'est ça, le problème, c'est ça. C'est ça, la France, et à un certain moment, il ne dit pas, ok, je fais une rupture. Non, non, et il continue à soutenir Israël. Ah, l'agression contre Gaza, non, Israël a le droit de se défendre. Non, mais il faut arrêter, s'il vous plaît. Parce que ça ne reste pas en Israël ou en Palestine, ça vient ici après. C'est l'injustice commise contre l'humanité. Et la dignité humaine doit être défendue, que ce soit à Paris, à Toulouse, à Martigues, là où j'étais, à Marseille, à Alger, il doit être défendu. Et on n'est pas des machines, on ne deviendra pas des machines. On sera toujours solidaires entre nous, partout où on est, dans les quatre coins de la Terre. Et ce qu'ils veulent, c'est nous rendre des machines. Et encore une fois, cette obsession d'utiliser Dieu partout, elle est maintenant en Syrie. Daesh, je vous rappelle que Bush a réduit la plus ancienne civilisation au monde. Vous voyez, la culture, l'État qui n'a même pas 200 ans, 250 ans d'histoire, a réduit a démoli la plus ancienne civilisation au monde, le Sumer en Irak, et il a démoli l'armée, une armée puissante au Proche-Orient, en 3 mois. Imaginez-vous, ça fait 3 ans que les Américains, les Français, sont en train de se battre derrière des gens très primitifs dans le combat. Sincèrement, très primitifs. Ni satellite, ni communication, il faut ni F-16, ni tank. C'est parce qu'ils l'ont créé. Et c'est là où on doit poser la question. Qu'est-ce qui se passe au Proche-Orient? Sincèrement, qu'est-ce qui se passe au Proche-Orient? Pourquoi l'Occident et pourquoi l'Arabie Saoudite? Pour moi, il y a 3 cancers au monde. Et surtout, dans mon monde. Il y a l'entité sioniste basée sur Dieu, le peuple élu, comme quoi Dieu il est raciste. Il choisit un peuple et pas l'autre. Et vous avez aussi Daesh, qui est une erreur, qui est un fanatisme inouï, qui ce sont des méthodes que l'humanité n'a pas connues, de manger le cœur d'un soldat syrien. Et vous avez l'Arabie Saoudite, il ne faut pas oublier, qui est chez vous, dans votre maison. C'est parce qu'il vous achète les mirages, donc Hollande et Sarkozy, et eux aussi, ils reçoivent c'est des marchands d'armes, c'est pas que des présidents d'État, comme BHL, c'est pas un juif. Non, il n'a jamais été un juif, c'est un marchand d'armes, BHL. C'est là où il va, c'est pour vendre des armes. Et il se déguise en juif pour augmenter l'antisémitisme. Donc, ces 3 entités très importantes qui sont le cancérigène de notre localité aujourd'hui au Proche-Orient, dans le Mashrek, dans la patrie arabe, l'antisioniste qui instrumentalise le judaïsme, Daesh qui instrumentalise l'islam et qui est en train de salir le bien vivre de l'islam et la paix surtout de l'islam, et l'Arabie Saoudite qui exporte le wahhabisme et le salafisme. C'est comme l'entité sioniste qui exporte le sionisme, qui est basé sur l'extermination de l'un pour prendre sa place. Donc ces 3 sont soutenus, je répète. Il faut que la solution vienne pas que chez nous. On a une responsabilité, bien sûr, mais il faut que aussi chez vous, il faut que vous repreniez le pouvoir et vous méritez vraiment, mes amis, je vous aime les Français. J'ai vécu parmi vous quand j'étais étudiant à Paris 4 Sorbonne. Vous méritez vraiment une dirigeance politique meilleure que celle qu'on trouve aujourd'hui.
Ou pas de dirigeance politique du tout, mais ça, c'est un autre débat. Mais tu commences un petit peu le truc, c'est quand même... tu arrives de Palestine, tu fais une tournée en France pour raconter la situation. Peut-être qu'il y a encore 2 mots à dire sur la situation et dis-le si tu as encore des choses à dire, mais aussi peut-être aller vers parce que c'est qu'est-ce qu'on fait, quoi? Ouais. C'est quoi la solution, hein? Parce qu'on nous a dit 2 États, 3 États. Toi, tu dis beaucoup, tu nous as dit tout à l'heure, mais faut enlever Dieu. Ok. Ouais. Bon, on l'a pas trouvé encore pour lui signifier son expulsion. Donc, comment on fait? Est-ce que tu as des choses à dire? Et peut-être aussi, parle-nous peut-être un peu avant de la situation aujourd'hui de l'intifada.
Ouais, l'intifada de Jérusalem.
Intifada de Jérusalem, dont on entend intifada des couteaux, etc. Bon, ouais. Peut-être quelques mots là-dessus, et puis sur les solutions possibles, en tout cas sur celles qui peuvent te tenir à cœur ou occuper certains de tes camarades.
Oui, et en ce qui concerne Dieu, il faut enlever Dieu. Je voudrais qu'on soit clair. Dieu, dans ce conflit aujourd'hui et dans ce conflit depuis le 16e et même avant, dans les conquêtes musulmanes, si vous voulez, Dieu qui a été un outil pour s'accaparer d'une richesse ou de s'accaparer d'une terre ou d'une population de recherche première. Donc, Dieu, c'est dans la même situation, mais aussi pour nous, les gens qui cherchent à vivre ensemble en harmonie. Je ne dis pas qu'on va vivre dans un monde parfait, mais on va vivre dans un monde un peu plus doux. Il y a un peu plus de douceur. C'est de ne pas suivre l'air, agiter le truc pour détourner l'attention. Nous, on ne va pas jouer leur jeu. Nous, juifs, chrétiens, musulmans, païens, laïcs et tout ce que vous voulez, on vit, on partage nos valeurs. Maintenant, ils veulent jouer leur jeu religieux qui le joue ailleurs, pas avec nous. Nous, on va se concentrer sur le colonialisme. Nous, on va se concentrer sur les conséquences de ce colonialisme et ce capitalisme néolibéral qui est en train de démolir le lien social entre nous. Donc, c'est pourquoi je fais une tournée ici en France. C'est pour dire à mes amis français, on est dans le même tranchée. On a le même ennemi. À Tel Aviv et à Paris, pour moi, ce sont les mêmes ennemis. Ce sont les mêmes qui sont en train de voler le pain de nos enfants pour nous rendre des esclaves. Et encore une fois, on n'est pas esclaves et on n'est pas machines. On est encore solidaires entre nous.
Donc, vous savez, depuis octobre dernier, les Palestiniens ont un... J'aime pas dire un troisième intifada parce que ça me fait penser taxi 1, taxi 2, taxi 3. Et ça veut dire qu'il y a un taxi 4. Ça me dérange. L'intifada où j'étais, la première intifada où j'étais en prison, j'avais 16 ans, est toujours la même intifada. On n'a jamais arrêté, même si Oslo, la catastrophe qui a été initiée par l'Europe pour soi-disant régler le conflit, mais plutôt pour le gérer mieux que le résoudre. Et donc, l'intifada a commencé à peu près en 1er octobre. C'est parce que Sharon avait, le deuxième intifada, ce qu'on appelle le deuxième intifada, avait choisi de nous amener encore une fois sur la carrière religieuse. Sharon est allé provoquer les musulmans, les palestiniens, les musulmans, tout ce que, même les chrétiens, ils viennent défendre la grande mosquée de Jérusalem, ce qui est important pour eux. Même les marxistes de FPLP, c'est les premiers qui vont défendre la grande mosquée de Jérusalem. Ce n'est pas qu'une mosquée, heureusement. Et donc, Sharon est allé provoquer, hop, intifada. C'est ce qu'il voulait, en fait. Il voulait nous amener toujours sur le carré religieux pour nous mieux exterminer. Et vous savez de Sharon, quand il est entré à l'intérieur de la Cisjordanie, il a tout démoli, tout démoli. Et il a tué surtout la leader qui a émergé après la première intifada, qui était une leadership palestinienne locale, qui connaissait très bien la localité, la géographie, et il maîtrisait bien l'hébreu. Ils savent traiter avec son ennemi, et l'OLP est arrivé. L'OLP a remplacé cette leadership, et c'est peut-être une des motivations pourquoi l'OLP a été autorisé de revenir sous occupation à Ramallah. Donc, les Palestiniens, ceux qui payent le prix depuis 3 mois, 4 mois, ce sont les jeunes. Je pense que vous avez vu avant-hier une fillette de 16 ans blessée par des tirs de balles d'un soldat israélien à Hébron. Et les Palestiniens qui essayent l'aider parce qu'il saignait. Et on a interdit l'ambulancier de s'approcher parce qu'il voulait qu'elle meure avec sa blessure. Ils voulaient, en plus, ils ont transmis les vidéos. Souvent, c'est les soldats qui transmettent les vidéos sur YouTube pour nous montrer. Si vous n'arrêtez pas, regardez. Vous allez signer jusqu'à la mort. On ne va pas avoir aucune pitié pour vous. On va vous lyncher. Et donc, la plupart de victimes sont jeunes. Pourquoi ? Si on la génération d'Oslo. C'est pas moi. Hein. Non, c'est les gamins qui ont 16 ans, 17 ans, 19 ans. Et ces gens-là, ils disent très simplement, assez, c'est assez. C'est quoi, le mur? Qu'est-ce que c'est le mur? 787 kilomètres à l'intérieur de la Cisjordanie, elle serpente toute la Cisjordanie. On a 5 kilomètres de liberté de circulation. Et l'enfant, il dit à son père, papa, je ne peux pas, c'est pas normal ça. Toi, tu es en train de me dire, c'est normal. Non, c'est pas normal. Toi, tu essayes de me dire, on peut vivre à l'intérieur de... Non, on ne peut pas vivre. Toi, tu as pu... Parce que tu as peur pour moi, tu as travaillé, tu fais tout, tu fais un profil bas parce que tu veux qu'on reste en vie. Mais moi, je ne peux pas accepter cet avenir-là. Quand je vais avec mes amis français à Bethléem, ils voient les gens de Bethléem, les enfants dans la rue, ils sont très contents, ils viennent. Ah, hello, welcome, what's your name, where you come from? Ah, France. Ah, oh, comment ça se passe à l'extérieur du mur? S'il vous plaît, racontez-moi. Il paraît qu'il y a une plage, il y a de l'eau, il y a de la mer. Ça fait 20 ans qu'on n'a pas sorti de Bethléem. S'il vous plaît, racontez-nous. J'aime bien voir un autre visage que la Palestine et les Palestiniens. On est enfermés entre nous. Donc mes amis français, quand ils viennent nous voir, je vous les encourage de le faire, c'est pour rendre un prisonnier. Ils sont là pour visiter un prisonnier. Et c'est les premiers qui sont réjouis, c'est les enfants. Les enfants qui ne cessent de demander. Donc cette génération d'Oslo ne peut plus vivre cette promesse hypocrite de la communauté internationale qui est, surtout aux Nations Unies, la structure vieillissante qui est à l'ordre de l'Amérique et de l'Europe. Ce n'est pas Nations Unies, c'est l'Europe et l'Amérique. Il faut être clair dans l'appellation. Et surtout, depuis 1948 jusqu'à aujourd'hui, Israël n'a cessé de violer le droit international et les résolutions des Nations Unies, et surtout le droit de retour. 7 millions de réfugiés palestiniens vivent dans la précarité, ils attendent de rentrer chez eux, ils ont toujours les clés de chez eux, de la maison. Et c'est Nations Unies qui les a promis en 1949 de revenir. En fait, tout ça, toute cette colonisation galopante, le colon contrôle 60% de la Cisjordanie. Le colon, ils ont des routes à eux. Le colon interdit aux Palestiniens d'aller faire la cueillette des olives. Mais on n'est pas, il ne faut pas se moquer de nous, s'il vous plaît. Il faut, on n'est pas dans une question, oh, les juifs, ils rentrent chez vous. S'il vous plaît, vous n'êtes pas à Paris laïque et tout d'un coup, vous êtes extrêmement religieux et fanatique avec le droit de peuple juif. Il n'y a pas de mesure, de parole, de, je ne sais pas comment vous dites en français.
Deux poids, deux mesures.
Exactement. Non, ces gamins-là, ils ont le droit à la vie. Ils sont là pour vous dire la vie ou la mort, mais je ne peux pas vivre dans cette situation.
Mais je me pose une question, moi, par rapport à cette intifada, à ce moment de la lutte palestinienne, où en tout cas, encore une fois, je te dis, c'est ce que je vois, ce que je ressens de ce qu'ils appellent l'information. On sent quelque chose de très individuel. Est-ce que c'est comme ça? Ou est-ce que, alors que les souvenirs que j'ai de 86 et de la seconde intifada, c'est plutôt des groupes. Des groupes collectifs, quoi. Et on parlait, les gens qui m'ont parlé de ça, c'est plutôt des groupes. Et là, on ressent quelque chose d'individuel. Est-ce que c'est parce qu'on le voit comme ça de loin? Ou est-ce que c'est l'effet aussi d'une atomisation aussi des Palestiniens aujourd'hui qui...
Non, c'est réel. C'est réel, vraiment, c'est individuel. Et nous, on a assez de mensonges. Pas que le mensonge de la communauté internationale, mais de mensonges. Nous, dirigeants qui sont illégaux d'ailleurs, Abbas, ça fait depuis 2009.
Les dirigeants palestiniens.
Oui. Mais le Hamas, le Fatah qui s'y bagarrent, on ne sait pas même pas pourquoi, c'est vrai, et chacun il a une idéologie. Mais en tout cas, l'enfant palestinien, c'est ça le génie de l'enfant palestinien qui a réussi, j'adore. C'est vrai, ça me fait mal que mon enfant, que mon frère, meure à l'âge de 16 ans. Il a le droit à la vie. Mais ce petit qui refuse l'humiliation, qui a une dignité humaine plus importante qui la bouffe, et l'iPhone, le nouveau dieu de la 20e, 21e siècle, lui, il a réussi à imposer le couvre-feu à Tel Aviv. Le petit, avec son couteau, il a réussi à imposer le couvre-feu à Jérusalem. Et lui, il ne reçoit pas des ordres. C'est ça. Le petit a dit au patriarcal politique, le papa politique, que ce soit Abbas ou Hamas ou n'importe, fini, je ne crois pas en vous, je ne crois plus en vous. Vous m'avez promis en 94 la libération, non, en 1965, la libération nationale. Vous avez fait une concession sur le corps de la Palestine, 78% pour les Européens déguisés en civil, qui sont là pour ramasser l'argent et fabriquer et violer, spulier le Jordan, l'eau de Jordan. Non, je ne crois plus en vous, je suis là et ça sera individuel. Mais heureusement, ce n'est pas individuel. Autrement, politiquement, on ne peut pas aboutir à quelque chose. Il y a aujourd'hui une leadership locale. Donc, dans mon quartier, la Zawiya, il y a des confrontations quotidiennes. Et ces jeunes-là n'écoutent pas le parti politique. Ils ont leur propre plateforme. Ils n'ont pas de chef. C'est ça qui est la force. Ils sont individuels, c'est-à-dire il s'en va, il prend son couteau et il va assassiner un soldat. Tenter à assassiner un soldat, ce n'est pas toujours réussi. Et ils ont une coopération, ils ont une certaine structure très bien faite pour continuer cette intifada. Donc, il nous dit très calmement, c'est la dernière intifada. C'est fini. Nous, soit libres, soit morts, mais libres. Comme Mohamed El-Krik, le journaliste, qui est 92 jours de grève de la faim, libre. Et le colonialisme ne peut pas continuer. L'histoire nous a montré. Le colonialisme ne peut pas contrer. Les Français ont quitté Algérie avec les armes, ils ont quitté Algérie. Ce n'est pas avec Vichy et Marshal Pétain comme Abbas aujourd'hui. Abbas, c'est Abbas, l'autorité palestinienne aujourd'hui, c'est exactement Marshal Pétain et Vichy. Ils sont en train de coopérer, ils sont en train d'arrêter les enfants et les extradier aux Israéliens pour les arrêter. Même espionner à l'intérieur de la maison. Donc ces jeunes-là, ils ont pris la décision que fini, j'ai le droit à la liberté de circulation, fini, les Français et les Anglais et les Américains, ils nous montrent à travers leur télévision que la vie est belle et qu'eux, ils ont Star Academy ou je ne sais pas, on est inondé par les images qui arrivent de l'Occident, Chanel ou tout ça. Et en même temps, on est dans un trou. On n'a pas le droit de circuler que 5 km. Alors que l'autre côté israélien, qui n'a pas le droit par ordre militaire de venir chez les Palestiniens, vous voyez, ils n'ont pas le droit de se voir ni de se rencontrer par ordre militaire israélien. De l'autre côté, les Israéliens, ils voyagent. Il arrive à Paris sans visa, il est chez lui. C'est normal, il est chez lui, c'est un occidental. Il ne faut pas croire que c'est un oriental et ça va devenir un oriental. Maintenant, est-ce qu'il y a une solution? C'est ça le plus important pour nous, parce qu'on peut décrire éternellement cette situation d'extermination du peuple palestinien. La situation était, on a cru à un certain moment, parce qu'on est l'héritier de Jésus, on a cru, ok, on va faire une concession sur une partie de notre corps, deux états de peuple. Rabin, la colombe, a triplé la colonisation en Cisjordanie. Aujourd'hui, on est à 850 000 colons qui contrôlent 60% de la Cisjordanie. C'est-à-dire qu'ils ont un tiers de la population palestinienne en Cisjordanie. Non, c'est impossible. C'est impossible. C'est lui qui vous dit, que ce soit Abbas ou Hollande, ou la communauté internationale, qu'encore c'est possible. Non. Moi, je viens de là-bas et je vous dis, c'est impossible. Nous, on demande, ça c'est un. Deuxièmement, nous, on ne demande pas le droit à l'égalité, apartheid ou pas apartheid. Non, on est dans un colonialisme. Ce n'est pas les Français de Marseille ou les Français de banlieue qui vivent dans un ghetto et ils demandent les mêmes droits. Ça, c'est en français. Ils payent les mêmes impôts, ils ont mais ils n'ont pas les mêmes services. Mais là, on est sous colonialisme. Il ne faut pas oublier colonialisme impérialiste. Donc, ça nous envoie vers un seul État. Et c'est le plus logique pour les Palestiniens, pas pour moi. Moi, je préfère... Comme on a quitté Alger 132 ans plus tard, on quitte la Palestine 132 ans plus tard, ou 68 ans plus tard, on revient chez nous. Pourquoi j'ai dit ça? Les Palestiniens, ils ont un autre avis. Les Palestiniens, encore une fois, c'est l'héritier de Jésus. Ils préfèrent partager, ils préfèrent pardonner. Non, pardonner, je doute, mais en tout cas, ils préfèrent vivre ensemble. Moi, j'ai dit non, parce que nous n'aurions jamais la paix, ni à Martigues, ni à Marseille, ni à Paris, ni à Jérusalem, ni à Chicago, tant qu'il y a le pied de l'Occident en Orient. C'est du colonialisme. C'est la patrie arabe. Et le polonais, l'allemand, le français a le droit, comme il a exercé depuis 1000 ans, le droit de venir faire le pèlerinage, et comme ça, ils voyaient la Terre Sainte. Je n'aime pas appeler la Terre Sainte, c'est les croisés qui l'ont appelée la Terre Sainte, elle n'existait pas avant. Ils venir dans cette ville spirituelle, faire le pèlerinage, tourner autour de la pierre, faire du shopping et rentrer chez eux, même s'ils veulent rester, pourquoi pas, mais qu'ils respectent les toits et l'harmonie de la vie, de notre vie. C'est pourquoi, moi, les Palestiniens peut-être accepteront un jour de vivre dans un seul État, moi, je n'accepte pas. Ça, c'est un pour ça, parce que c'est pas chez eux, ils ont rêvé la Palestine en tant que lieu de pèlerinage et ils se considéraient même pas un peuple comme Abraham Greger, un des plus importants rabbins du 19e siècle. Et deuxièmement, un seul État, ça nous rend encore une fois dans la situation à deux vitesses. Et lui, il est le maître et moi, je suis l'esclave. Et lui, il est le patron et moi, je suis la main d'œuvre la moins chère dans la région. C'est le cas aujourd'hui. Et un seul État, ça ne va pas changer parce qu'il détient 80 à 90% de l'économie de la Cisjordanie et de la Palestine et d'Israël. Donc vous n'allez pas me dire, tu vas vivre avec un trader, avec l'égalité, alors que je suis qu'un simple paysan ou qu'un simple fonctionnaire, avec un trader qui touche par mois 3 milliards de dollars. Non. Là, un seul État, à mon avis, ce n'est pas faisable. Ce n'est pas moi qui décide les Palestiniens, mais moi, je préfère qu'ils rentrent chez eux. Ils ont toujours leur maison secondaire à Paris, à Marseille et en Pologne. Si la justice soit rendue, c'est comme ça. Mais c'est encore une fois, c'est le peuple palestinien qui décide de l'avenir de sa terre.
Écoute, du coup, ce ne sera pas la peine de poser la question sans Pitanel. En général, quand on rencontre dans un média en France, on demande où en est le processus de paix.
Y a pas.
Donc, on va éviter cette question à la con. En tout cas, merci d'être venu, Mustapha. Donc, tu continues ta tournée. Tu seras à Avignon demain. Nîmes, ça va continuer, oui. À Nîmes, etc. Marseille, oui. Cette info-là, on peut la trouver sur Internet, peut-être, quelque part
Oui, je pense que mes amis français qui m'invitent, ils filment aussi, ils enregistrent. Donc, et vous êtes les bienvenus. Je serai toujours heureux de retrouver mes amis français, que ce soit à Naplouse, à Hébron, et à Paris. Pas que à Paris, bien sûr. Je veux pas.
Paris, j'ai entendu parler de cette ville. Donc, merci beaucoup d'être venu. On va se quitter sur une chanson. C'est 86, c'est cette fameuse première intifada. C'est Ibrahim et c'est Les Berruriers Noirs.
Merci.
Voilà, c'était donc les Berruriers Noirs. On remercie pour cette émission Mustapha Mohamed qu'on vient d'entendre pendant trois quarts d'heure. Vous retrouverez les dates de sa tournée et cette interview sur le site du Front du Lundi. On remercie Mathieu Léonard de CQFD et le journal CQFD pour ce numéro du mois de février 2016 sur la Turquie, la sale guerre d'Erdogan. On remercie aussi Nico, enseignant en lutte, voilà, qui nous appelle mercredi au rectorat à venir soutenir leur mouvement de grève. Merci, à la semaine prochaine. On sera avec la clim. On va parler sans papier et d'autres choses. Et bien voilà, on rend l'antenne.
Ciao.